de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Et je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama. Cinérama, c'est une émission de cinéma qui dure une demi-heure. Et pendant cette demi-heure, eh bien, on vous propose de parler de films qui sont sur les écrans parce qu'on les a vus. Et puis, on vous propose aussi de jouer régulièrement à un blind test sonore. Et aujourd'hui, nous allons jouer avec la filmographie de Laurent Lafitte à propos de Classe Moyenne, dont nous avons parlé la semaine dernière et qui est donc toujours sur les écrans. Autour de la table, Sophia, toi, tu as un film.
Oui, il s'agit de Rembrandt de Pierre Scholler, qui n'est pas un biopic.
Et puis, toi Guillaume, tu as deux films, dont une ressortie.
Oui, je vous parlais longuement de Marche ou Crève, et je vais vous dire juste quelques mots sur un incontournable qui revient sur les écrans. Pour moi, c'est Papy fait de la résistance.
Et il revient sur beaucoup d'écrans, hein. Ça c'est assez étonnant. C'est Cinérama qui débute avec la Palme d'Or au Festival de Cannes. Nous parlons de A Simple Accident.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Vous voulez rire?
Connerie, je vous dis. Et même saloperie, hein.
Vous êtes beaucoup trop bavard.
Cinérama.
Un réalisateur iranien sur la croisette, c'est toujours un événement, hein, tant le régime iranien cherche à museler ses cinéastes en leur interdisant de sortie de territoire ou en les emprisonnant. Alors pour nos démocraties, c'est ça paraît toujours inimaginable. Mais l'Iran est bien ce régime autoritaire et partial qui, au minimum, censure les artistes. Alors s'il a été condamné à 6 ans de prison en 2010, Jafar Panahi n'en aura fait qu'un peu moins d'un an à deux reprises, mais c'est déjà pas mal, hein. Le reste du temps, il aura vécu assignation, interdiction de voyager et pression permanente. Mais ça ne l'aura pas empêché de filmer sans en avoir l'autorisation. Que son film Un simple accident obtienne la Palme d'Or a de quoi réjouir. Non seulement le film a été fait à l'insu du régime, mais en plus il parvient à en dénoncer les travers. Voilà, je vous fais grâce des dialogues en persan et j'ai pris un extrait de la bande originale du film. Dans son film Un taxi à Téhéran, la caméra campait dans la voiture. C'est aussi dans une voiture que commence un simple accident. Une voiture qui emmène une famille en pleine nuit jusqu'à ce qu'il y ait des soubresauts. Alors sans doute un animal percuté. Voilà la voiture mal en point qu'il faut emmener à l'improviste dans ce qui ressemble à un garage. Là, l'employé est effrayé par le conducteur sans l'avoir vu, simplement en l'entendant marcher. Il croit reconnaître Ekbal, dit Lagibol, ni plus ni moins que son tortionnaire quand il était emprisonné pour, on l'imagine, un délit d'opinion. Quand il était interrogé, le bruit des pas de son tortionnaire, dont il ne voyait jamais le visage, était toujours accompagné d'un grincement de la prothèse. Le film bascule alors. Le garagiste attend le lendemain pour enlever cet homme, mais une fois devenu son prisonnier, bien, il doute. Et s'il se trompait, si ce n'était pas Lagibol? Avec ce dernier dans son van, il se met en quête d'autres victimes de son ancien tortionnaire. Alors il va voir un ancien co-détenu de vue libraire qui, lui, veut absolument pas entendre parler tout ça, mais il est renvoyé vers une photographe qui fait un shooting avec des mariés, puis un autre ancien détenu vient se joindre à tout ce petit monde qui nous propose un road movie dans les quartiers de Téhéran, alors pas forcément les plus touristiques. On quitte un temps le genre du thriller politique pour la comédie, mais sans quitter la question de départ. Est-ce bien la Guibol qui est maintenant séquestrée? Et si c'est lui, eh bien, est-ce qu'il doit mourir? Et en commettant son meurtre, ne devient-on pas plus mauvais que le tortionnaire? Moralement, vaut-il mieux être celui qui a subi plutôt que celui qui a fait subir? Mais si on le laisse en vie, ne va-t-on pas encore subir les persécutions? Alors voilà autant de questions qui apparaissent dans les dialogues fournis qu'ont les différents personnages pris dans la population de Téhéran. En fait, il y a différentes... enfin différentes strates de la population. Certains d'ailleurs de ces acteurs ne sont pas vraiment acteurs. Voilà. La force de Panahi est de faire traverser cette ville, donc avec ses habitants, tous potentiellement des victimes d'un régime tortionnaire. Une femme sans voile va le remettre au moment opportun. Et au fil des discussions, eh bien, on apprend les raisons de la mise sous écrou des uns et des autres. Alors elle, c'est qu'elle avait manifesté justement en brandissant son voile au bout d'un bâton. Il y a beaucoup de conscience dans les propos des uns et des autres. Un seul veut à tout prix faire la peau à la guibole.
مو برم تنها باشم تنها فقط واسه یخو ساعت تلخ رفتنه به خوب فهمم غایخو دو روز تلخ زندگی قصه یه تلخ مردنه امید یک روز زندگی دنبال خوبا گر بردنه.
Il y a un moment où, à force de bavardage, de prise de tête, de quiproquo, eh bien, on pense avoir fait le tour du sujet. Mais Jafar Panahi dynamise son récit par un procédé cinématographique extrêmement basique, hein, le plan-séquence en caméra fixe. Cela en fait une fin qui ramène tout le film à elle, qui éclaire ce simple accident. Une fin alors vraiment captivante, émouvante, signifiante. Un beau geste de cinéma qu'il convenait effectivement de saluer à Cannes, où Jafar Panahi n'a toujours pas pu se déplacer. Enfin, là, il a pu cette année, et c'était la standing ovation, évidemment, pour lui. Un simple accident est un film qu'il faut voir, hein, plutôt, dans les salles, depuis le 1er octobre. Sophia, est-ce que tu vas me donner envie d'avoir ma propre centrale nucléaire ? On va le voir. Tu vas nous parler du film Rembrandt.
Bah oui, c'est le film, et le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Pierre Scholler aime les sujets monumentaux. Son deuxième film, L'exercice de l'État, en 2011, où il disséquait les arcanes du pouvoir, avait marqué les esprits, avec nombreuses nominations au César, un trophée pour Michel Blanc en meilleur acteur dans un second rôle. Et en 2018, il revenait avec Un peuple et son roi, fresque historique sur la Révolution française. Cette fois, changement d'époque, mais pas d'ambition. Rembrandt réunit Camille Cotin et Romain Duris, couple de physiciens du nucléaire chez ENF. L'art, la science, le climat, la politique énergétique et même la question de la domination masculine, c'est peu dire que Scholler ne se refuse à rien pour ce film sur lequel il est aussi au scénario. Mais à force d'empiler les strates de gravité et de suspense, ben on se demande parfois si le tableau n'est pas plus chargé que ceux du maître hollandais du clair-obscur au XVIIe siècle, Rembrandt, qui donne son nom au film.
Des voitures emportées par les flots déchaînés.
C'est une vague qui avoisine les 25 mètres de haut.
Et si on se trompait sur les aléas climatiques ?
Il y a quelque chose qui débloque. Mais je sais pas quoi.
Les analyses sont tenues cachées pour ne pas affoler la population.
Ça me rappelle une phrase entendue dans la bouche d'un expert coréen. Si tu veux résoudre la crise climatique, va au cinéma.
Claire et Yves, physiciens donc du nucléaire, se rendent à Londres pour participer à une réunion internationale où se croisent Anglais, Chinois et autres grands acteurs de l'énergie. Là, chacun révèle son tempérament. Yves dans son rôle d'expert solide et Claire brillante, pragmatique, qui rappelle sans cesse à ses interlocuteurs de s'en tenir aux faits seulement. Mais hors de la salle de conférence, un détour par la National Gallery va bouleverser leur équilibre. Face aux toiles de Rembrandt, Claire disparaît un instant, un long instant, une heure, puis deux, une absence étrange, inquiétante pour son mari et leur fille, qui la cherchent et l'attendent en vain jusqu'à ce qu'à la fermeture du musée, elles ressortent, comme si de rien n'était, mais on remarque une subtile transformation. C'est le point de départ hein, d'une métamorphose, secouée par ce qu'on pourrait appeler un effet Stendhal. Claire ne se contente plus de gérer les certitudes de la filière nucléaire, elle commence à envisager les incertitudes du monde. Avec son assistant, elle se lance dans une étude qui s'appuie sur ce que les scientifiques nomment les signes noirs, Black Swans, des événements rarissimes, quasi improbables, mais aux conséquences cataclysmiques. Vagues scélérates de plus de 20 mètres de haut, blackout électrique, vagues de froid glaciaire gelant l'eau qui sert au refroidissement des centrales, contamination de nappes marines et Macron encore président en 2035. Non mais quand je vous disais hein, des scénarios catastrophes, le spectre d'un nouveau Fukushima est envisagé à un degré de gravité supérieur encore. Mais dans Rembrandt, la plus grande secousse ne viendra pas seulement des courbes et des modèles scientifiques, elle surgira dans l'intimité du couple, où le doute de Claire crée la fission. Le suspense se déplace de la menace nucléaire à la menace domestique.
Elle est là et elle n'est pas là.
T'as connu ce genre de... d'être comme ça avec quelqu'un ? Il m'a
matin, tu te réveilles. Il y a quelqu'un d'autre qui est à côté de toi.
Le nucléaire, le climat, c'est notre métier. Ça va vous paraître paradoxal, mais vivre à Fukushima, c'est plus sûr que de vivre à Roubaix.
Et si on se trompait sur les aléas climatiques ?
Alors, si certains passages impressionnent par la précision documentaire, la vulgarisation sur le nucléaire, les projections climatiques, l'ensemble souffre d'un didactisme un peu pesant. La mise en scène en rajoute une couche, musique oppressante, contre-jour insistant, suspense exagéré, comme si le danger pouvait vraiment surgir à chaque instant. Le paradoxe, c'est que la véritable tension du film naît dans le huis clos du couple, quand Yves, incapable de tolérer la remise en question de son épouse, glisse vers la violence et l'humiliation. Camille Cotin, habitée par le contraste, nous fait naviguer avec elle entre l'hyper-scientifique et l'hyper-irrationnel, là où Romain Duris incarne avec une intensité plus brutale la fragilité d'un homme débordé par la perte de contrôle. Scholler cadre tout cela avec la même gravité uniforme, sans respiration. On se retrouve donc un peu écrasé par un récit qui cherche à tout dire, mais avec des personnages qui restent plutôt opaques.
Tu es en train de devenir une autre femme.
Y'a rien contre toi, Yves.
J'aimerais te croire. Aimez-vous encore votre femme ?
Je vais vous dire. Je l'aime comme je ne l'ai jamais aimé.
En définitive, Rembrandt est un film sérieux, trop sérieux peut-être, qui en voulant embrasser l'art, la science et l'intime, se referme un petit peu sur lui-même. Pierre Scholler signe un film en clair-obscur, traversé d'intentions fortes, mais où l'histoire de cinéma se perd sous le poids d'un récit PowerPoint narratif sur le nucléaire et le climat. Reste cette idée forte, celle d'un monde instable où la catastrophe ne vient pas seulement du monde extérieur ou des réacteurs nucléaires, mais aussi de l'intérieur du foyer, là où les certitudes masculines tremblent face à la sensibilité et à la lucidité d'une femme.
Et est-ce que ça donne au moins envie d'aller voir des Rembrandt ?
Pourquoi pas, oui.
D'accord, sans plus alors. Donc, ce film, Rembrandt, est en salle depuis le 24 septembre. 1000 coureurs participent à une course pas comme les autres. Nous parlons maintenant de Marche ou Crève.
Cinérama.
Je comprends pas. Qu'est-ce que tu comprends pas ?
Actualité, cinéma et tout le reste.
Pas très compliqué à comprendre, moi.
Faut en avoir dans le pantalon quand on signe pour cette marche. Je vais pas vous lire tout le règlement, mais en résumé, ça donne ça. Si vous descendez en dessous des 5 km/h, c'est la fin du voyage.
Il est de ces Arlésiennes que l'on n'espérait plus et qui pourtant finissent par trouver un moyen de prendre vie malgré des opportunités en or tristement abandonnées. Alors Marche ou Crève est l'une d'entre elles. Dire qu'une adaptation s'est faite attendre est un euphémisme car on parle du tout premier roman de Stephen King, le premier qu'il a réussi à terminer, le même Stephen King qui est tout simplement l'un des auteurs les plus adaptés de ces 50 dernières années, si ce n'est le plus adapté depuis que Carrie de Brian De Palma a brillamment ouvert le bal en 1976. Alors Marche ou Crève a été écrit entre 66 et 67, mais n'a été publié qu'en 79, sous le pseudonyme, désormais très bien connu, de Richard Bachman, l'alter ego de Stephen King, après que ce roman ait été initialement rejeté.
On a créé la première longue marche il y a des années pour inspirer les gens chaque jour de leur vie.
Souriez les gars! Regardez, vous êtes filmé.
Mec, tu dois régler ton allure et te concentrer. Tu dois avoir un plan.
Personnellement, mon seul plan, c'est l'argent. You'll never find another
like me. I'm the last of my kind. La Marche ou Crève, ou The Long Walk, en VO, parle justement d'une longue marche. Dans un futur indéterminé, dans une Amérique marquée par une situation économique catastrophique et une gestion qui a tout du totalitarisme, une compétition appelée La Longue Marche est diffusée avec succès chaque année à la télévision à partir du 1er mai. Alors un groupe de jeunes adultes doit marcher jour et nuit, sans interruption aucune, à un rythme minimal imposé, aussi longtemps que nécessaire pour déterminer un vainqueur et sous la direction d'un commandant acerbe. Alors Ray Garaty, comme pour beaucoup des 50 candidats à signer pour un avenir meilleur. Le vainqueur se voit promettre fortune et privilèges, ayant incarné l'idéal viril et combatif américain et ayant insufflé un espoir à la jeunesse en perdition. Le seul problème est que, en dehors du vainqueur, les perdants sortent du jeu avec une balle dans la tête et que le vainqueur n'est pas forcément sûr d'en ressortir psychologiquement indemne. Alors Marchaux Crève hein, arrive sur nos écrans en 2025, mais Frank Darabont, hein, qui avait signé 3 chefs-d'œuvre adaptés de King, Les Évadés, hein, La Ligne Verte et The Mist, avait travaillé dessus. Lorsqu'il fut mis de côté, hein, André Ovredal prit sa relève, ce qui laissait aussi inaugurer du meilleur quand on apprécie la qualité hein, de son Scary Stories produit par Guillermo del Toro, et que l'on sait que son brillant The Jendo Identity avait été salué par King lui-même hein, comme étant effrayant et incontournable. Alors si l'idée de confier à Francis Lawrence ce brûlot dystopique hein, pouvait paraître intéressante vu qu'il est également le réalisateur de 4 films de la série des Hunger Games, c'est oublier que ces films sont des gros ratages et qu'il a enfoncé le clou dans la nullité avec ses adaptations de Constantine, Je suis une légende et Little Nemo, que j'avais d'ailleurs ici chroniqué avec beaucoup de douleur.
Marchez jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Qui est prêt à gagner ? Ça m'a pris un moment avant que je comprenne. C'est marche ou crève.
Avertissement.
Vous marcherez autant que vous pourrez.
Avertissement.
Mais parfois, le corps ne vous écoutera pas.
Avertissement.
Pour certains, le cœur lâchera.
Avertissement.
Pour d'autres, ce sera la tête.
Avertissement.
Et le sang coulera. Sans crier gare. Il n'y aura qu'un seul gagnant. Et pas de ligne d'arrivée.
Les marcheurs s'allient, hein, s'apprécient, mais aussi s'affrontent, se détestent, hallucinent, souffrent, sont pris de paranoïa, ont des choses à cacher, vont se livrer parfois très crûment. Ben, rien de tout cela ne sera filmé de manière adéquate, hein, et l'on aura peu ou prou toujours les mêmes plans de marche et de paysages parfois harmonieux, parfois menaçants. Cette America de John Steinbeck, passée par la moulinette du totalitarisme, méritait une meilleure personnification. Rien n'est fait aussi hein, pour transformer le personnage caricatural du commandant en plus inquiétant que ce qu'il est, à savoir une allégorie totale du fascisme. On peut sauver hein, la seule bonne idée d'agencement des séquences, hein, à savoir que le titre n'apparaît à l'écran qu'une fois que le premier candidat meurt, abattu d'une balle dans la tête, car cela symbolise le fait que ces jeunes gens viennent tout juste de réaliser pour de bon la nature de la machine de mort dans laquelle ils se sont empêtrés et qu'ils ne pourront pas fuir. Interdire à la marche aux mineurs ce qui n'était pas le cas dans le roman enlève un aspect corrosif, un aspect qui avait bien sûr compris Battle Royale de Kinji Fukasaku basé sur le même modèle du « il ne peut en rester qu'un ». Alors la fin diffère également du roman et ne l'améliore pas hein, comme c'était le cas dans les adaptations de Carrie ou The Mist. C'est dommage hein, car les écrits de King sous le nom de Bachman interrogeaient tous ouvertement des questions sociales importantes en usant une quelconque allégorie hein, pour décrire la noirceur du monde de tous les jours comme le faisait Mark Twain. Alors preuve ultime hein, que le texte de King est vraiment brillant, hein, je vous conseille fortement la lecture, et qu'il porte, hein, malgré l'énorme souci d'écrin, hein, même avec ses défauts, marche ou crève, fonctionne hein, comme divertissement, principalement grâce à un casting très impliqué et son propos implacable. Il se regarde hein, et peut même s'apprécier, hein, c'était quand même mon cas, hein, mais il n'est que l'ombre de ce qu'il aurait pu ou dû être. Et ça, c'est ça qui est le plus dommage.
Et si on veut bien des règles un peu plus compliquées, on peut regarder la série Squid Game. Voilà. Marche ou crève est en salle hein, depuis le 1er octobre. Allez, nous allons jouer maintenant. C'est la partie blind test de cette émission.
Cinérama.
Il est votre sac.
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Est-ce que je suis clair ?
Et aujourd'hui, nous jouons avec la filmographie de Laurent Lafitte qui se retrouve dans un film classe moyenne de Anthony Cordier. Voilà, ce sont 5 extraits et 5 titres à deviner. Le premier, le voici.
Donc c'est toi qui décides en fait.
C'est-à-dire ?
Bah comme d'habitude. C'est toi qui décides quand on se fait la gueule, c'est toi qui décides quand on se réconcilie, c'est toi qui décides quand il faut se comporter comme des adultes.
Mais
non mais attends, j'ai pas d'ordre à recevoir de toi, moi je suis pas un de tes ouvriers.
Ah, petite rébellion. C'est ta pouf qui te donne des ailes ?
Pouf, tu t'entends comment tu parles ? Je te reconnais pas, t'es vulgaire là.
Ah oui, c'est moi qui suis vulgaire, c'est pas moi qui me tape une infirmière de 20 ans.
Mais attends, qu'est-ce que tu crois que je pars pour elle ? Je pars pas pour elle, je pars à cause de toi.
C'est décidé, je pars au Danemark.
Attends, il n'y a pas de je pars au Danemark, c'est décidé. C'est les enfants qui choisissent.
Donc tu veux la guerre ?
Non, c'est toi qui veux la guerre.
Ah, moi je veux la guerre.
Ah, tu veux la guerre ?
Ah oui, je veux la guerre.
Ah, donc tu veux la guerre.
Absolument,
ouais. Tu vas l'avoir, la guerre.
Mais je suis prête, mais si tu savais à quel
point... Tu sais ce que c'est que la guerre ?
Ouais, je suis prête.
Ouais, parce que tu vas savoir ce que c'est la guerre, tu vas l'avoir.
Très bien, je suis prête, je te dis.
Ok, bah tu vas l'avoir.
Vas-y, compte bien.
Oh, c'était facile.
C'est Papa ou Maman ?
Oui, de Martin Bourboulon, avec Marina Foïs qui donnait la réplique. Un couple à qui tout réussit décide de divorcer. Mais contre toute attente, eh bien, ses époux modèles se déclarent la guerre pour ne pas avoir la guerre des enfants. 2,8 millions d'entrées en France pour cette très bonne comédie. Nouvel extrait.
Je suis venu avec Monsieur le Duc, le futur commissaire. C'est un parisien.
Ah.
Si parisien, ça veut dire choisir où manger sans choper tétanos, bah ouais, je suis parisien. Ouais.
Parisien, ça veut juste dire que quand on arrive en banlieue, on pense avoir mis les pieds au tiers-monde.
Attends, figure-toi que j'ai été élevé à Auteuil. Auteuil qui, au Moyen-Âge, était un village populaire avec des paysans, figure-toi. Alors, renseigne-toi.
Je lui ai servi une version prestige.
Très bien, Rita, merci.
De rien.
T'excuses pas surtout, petit con, là. Ils vont jamais à l'école ici ou quoi?
Quand l'État mettra autant d'argent dans les écoles ici que dans les parcs et les jardins à Paris, on verra.
C'est bon, t'as fini ton laïus, là hein? Alors d'accord, vous habitez dans des logements exigus, oui, mais modernes. Hein? Alors détériorés, oui, mais par qui? C'est pas ma mère qui vient faire les tacs dans ta cage d'escalier. Ouais, ben nous aussi, on peut se plaindre. Attends, tu sais combien ça coûte, un loyer pour 80 mètres carrés à Paris?
Ça coûte quoi, un SMIC?
C'est combien, un SMIC?
C'est 1200 euros, un SMIC.
Ouais, et ben parfaitement, on veut 1200 euros, exactement.
Alors, c'est trouvé.
Oui, c'est loin du périph.
Non, de l'autre côté du périph.
Ah oui, de l'autre côté du périph.
Mais tu avais une partie du titre de David Charron, film de 2012. Lorsque l'épouse du premier patron de France est retrouvée morte, deux policiers issus de mondes radicalement différents sont chargés de l'enquête. Là, nous entendions évidemment Omar Sy. 2,2 millions d'entrées en France pour ce film. Allez, un nouvel extrait pour trouver un film avec Laurent Lafitte.
Apparemment, il n'y a rien à signaler.
Ben, merci en tout cas. Hein. C'est très gentil à vous.
Je vous en prie, j'ai pas fait grand-chose. J'aurais pu le rattraper, mais ici, on fuit tellement vite. Au lycée, je courais le 1000 mètres en 2 minutes 42.
Peut-être que s'il a couru si vite, c'est qu'il a eu très très peur de vous.
Merci de voler au secours de mon orgueil.
Je vous en prie.
Nous avons changé de registre, hein. Ce n'est plus la comédie. Et d'ailleurs, c'est Isabelle Huppert qui donne la réplique à Laurent Lafitte. C'est Isabelle Huppert qui est le personnage principal de ce film réalisé par un réalisateur étranger, mais qui est un film français de 2016. C'était le César du meilleur film français de l'année, hein, et le César de la meilleure actrice. Toujours pas ?
Toujours pas.
Paul Verhoeven qui a réalisé Elle.
C'était Elle ?
Eh oui.
Ah bah, il faut que je le révise. Alors, en plus, j'avais beaucoup aimé, mais non, il faut que je le révise, tout simplement.
Et là, bon, c'était une scène un peu trouble entre les deux. Femme d'affaires redoutable et chef respecté d'une entreprise de jeux vidéo, Michel voit sa vie basculer quand un masqué s'introduit chez elle et la viole. Alors qu'elle croyait tout contrôler, elle sombre dans une sorte de paranoïa. 586 000 entrées en France pour ce film. Un nouvel extrait pour trouver un film avec Laurent Lafitte.
Bon, écoutez, j'étais hospitalisé et apparemment, Solange en a profité pour changer le code de la grille. Elle veut m'empêcher de rentrer chez moi.
Pourquoi elle aurait fait ça?
J'en sais rien, c'est elle qu'il faut demander.
Elle a peur de vous?
Elle a écrit un livre et je veux pas qu'il soit publié, voilà.
Un livre?
Oui, un livre sur moi. Enfin, un roman dans lequel elle parle de moi. Écoutez, c'est compliqué à expliquer. Elle écrit un roman dans lequel elle me rend responsable de ses échecs. Elle est devenue paranoïaque.
Et vous, pourquoi vous étiez hospitalisé?
On m'a tiré dessus.
Ouais, on vous a tiré dessus.
Oui, Edgar Limaud m'a tiré dessus.
L'animateur?
Voilà.
Pourquoi il aurait fait ça?
Je sais pas, il est devenu dingue.
Il y a beaucoup de gens qui voient du mal décidément.
Effectivement. Donc ça n'a pas été trouvé dans ce studio. Peut-être que vous, chers auditeurs, vous avez trouvé. Alors, c'est un présentateur télé arrogant qui se réveille à l'hôpital. Là, c'est la scène où il se réveille. Enfin, là, il s'est déjà réveillé, mais il est convoqué à la police. Et donc, il se réveille après une agression et découvre que son entourage, son travail et sa vie semblent avoir changé du tout au tout. Il est prisonnier d'une réalité incertaine et doit comprendre s'il vit un complot, un rêve ou le châtiment de ses propres excès.
Je ne l'ai pas vu.
Ouais. C'est un film de 2017 qui s'appelle Chaos de Francis Gobert et qui n'a pas réuni énormément de spectateurs, 168 000 en France. Allez, dernier extrait de ce blind test consacré à Laurent Lafitte.
T'as déjà eu l'impression que ce que tu vivais n'était pas la réalité? Parce que c'est comme si j'étais sorti de moi-même, que je me voyais faire des choses, vivre ma vie, mais que c'était pas réel. Non, plutôt si c'est réel, mais c'est faux. Voilà, c'est ça. C'est comme si je faisais la différence entre la vérité et la réalité. Ma vie est réelle, mais elle est fausse. Tu vois ce que je veux dire?
Comme si tu vivais dans un mensonge sans savoir de quel mensonge il s'agissait.
Ouais, c'est exactement ça.
Non, je vois pas.
Ouais, c'est ça, un gigantesque mensonge et j'ai plus l'énergie de donner le change. Même avec mon chat, tiens.
Quoi, ton chat?
Bah, mon chat. C'est une mascarade, si tu réfléchis. Je le nourris et je le séquestre. C'est pas de l'amour qu'il a pour moi, c'est le syndrome de Stockholm. Quand il se frotte à moi, je devrais trouver ça atroce au lieu de trouver ça mignon. C'est une tragédie, ce chat. C'est Natacha Kampusch.
Quand un chat se frotte à toi, c'est pas du tout une marque d'affection. C'est pour déposer ses phéromones et marquer son territoire.
Bah c'est encore pire, alors. Tout le monde se ment et se raconte une histoire.
Non, parce que je pense pas que Natacha Kampusch se frottait à Wolfgang Priklopil. Voilà, pas de son propre chef, en tout cas. Hein. Bah, t'es vraiment bizarre, Jean-Louis.
Et connaître le nom du ravisseur de Natacha Kampusch, c'est pas bizarre, ça?
Moi, ça me fait rire. J'ai souhaité laisser ce dialogue dans la longueur et encore, j'ai coupé. Pas trouvé. Alors, l'indice principal, c'est que c'est un film de Laurent Lafitte qui s'appelle L'Origine du Monde, film de 2021.
Et je l'avais chroniqué, donc j'avoue qu'il ne m'avait pas trop marqué.
Ah, moi, j'ai adoré. Je le trouve très bien écrit et ce dialogue le prouve. Un jour, sans crier gare, le cœur de Jean-Louis s'arrête de battre. Voilà, au sens propre. Hein. Jean-Louis devrait être mort, mais il parle, marche comme si de rien n'était. Désespéré, il tente de trouver des réponses auprès de Margot, le coach de vie de Valérie, sa femme un peu guérisseuse, et un lien avec les forces occultes. 228 000 entrées en France pour ce film de Laurent Lafitte. Nous terminons cette émission avec une ressortie. C'est Papy fait de la résistance. Il est bien visible en salle, ce film.
Non mais bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Très visible, hein, mais c'est normal parce qu'il y a des comédies qu'on pense avoir usées jusqu'à la corde. Et bien écoutez, après 4 décennies, hein, ça garde toute sa saveur. Ben, c'est le cas de Papy de la fait de la résistance hein, de Jean-Marie Poiret, qui ressort donc dans une version restaurée 4K de toute beauté, 42 ans après avoir rassemblé plus de 4 millions de spectateurs quand même.
Vous me rappelez étrangement une kleine petite bavaroise que j'ai très bien connue. Frida.
Oh là. Belle femme, là.
Elle fait maintenant un numéro sexy, comique à Munich. Bon, ce n'est pas très fin. Elle chevauche une banane géante en caoutchouc qui répondit partout sur la scène du cabaret. Le tout accompagné par des harpes. Ouais, c'est un peu vulgaire, hein? Mais on rigole en même temps. On se bourre de quiches, on boit des énormes pintes de bière et on finit... en farandole, en hurlant des tyroliennes ou en vomissant partout, on ne regrette pas sa soirée.
C'est charmant. Je raffole ce genre de soirée.
C'est Jacqueline Maillon.
Oui, c'est ça. Donc voilà, à l'origine, il y a une pièce de théâtre hein, éponyme du Splendide, hein, coécrit par Clavier, par Martin Lamotte et par Poiret lui-même en 81. Et la version cinématographique donc sort pas longtemps après, en 83, et comme son modèle, s'attaque à un sujet qui pouvait paraître intouchable, c'est-à-dire l'occupation. Alors oui, bien sûr, il y a déjà eu des comédies mettant en scène à la Seconde Guerre mondiale, mais peut-être pas de cette manière aussi acerbe, qui est un peu plus l'apanage de nos amis anglo-saxons. En très gros, la famille Bordel voit son hôtel particulier réquisitionné par l'armée allemande et doit cohabiter avec un général, donc joué par Jacques Villeret, à la fois inquiétant et totalement lunaire. Alors ils sont logés à la cave hein, et ils cachent un secret, ces bordels. C'est que le fils Guy Hubert, hein, dissimulé derrière les traits d'un coiffeur homosexuel, est en fait super résistant, hein, une sorte de Zorro super héroïque qui complote contre les nazis.
Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce jeune homme étranger qui t'a chanté tes romances, qui t'a inventé tes dimanches, qui t'a fait voyager. Je n'ai pas changé. Je suis toujours ce garçon un peu fou qui te parlait d'Amérique, mais n'était pas assez riche pour t'amener à Corse.
Et oui, il n'a pas changé, hein, comme on a pu l'entendre. Il y a aussi Michel Galabru, hein, patriarche excessif, Jacqueline Maillan, en bourgeoise mondaine, et toute la bande du Splendide, donc, hein, au quasi complet, chacun dans des rôles complètement fous. À savoir que Louis de Funès devait jouer à l'origine ce fameux papy récalcitrant, mais sa disparition hein, va forcer l'équipe à revoir un petit peu son jeu de cartes, et c'est quand même un carton plein. Hein. Vous avez les improvisations de Jacques Villeret, hein, et puis il y a bien sûr, après 1h30 de gag, il y a cette fin, je trouve absolument géniale, l'idée de basculer dans l'époque contemporaine hein, avec la parodie télévisuelle de l'émission hein, culte à l'époque, Les Dossiers de l'écran, où on voit les survivants de la famille Bourdel hein, invités à débattre sur leur mémoire de guerre et ça finit en règlement de compte et absurdité historique. C'est absolument hilarant. Vous avez plus d'explications et les coulisses dans l'excellente biographie de Jean-Marie Poiret, Rire est une une fête que j'avais chroniquée il y a quelques temps, qui pourra vous permettre de développer un petit peu ce visionnage incontournable.
Papy fait de la résistance et dans plus de 300 salles en France.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Elle lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier. Merci.
La semaine prochaine, Guillaume, tu auras encore deux films.
Oui, j'aurai le retour de Shane Black, Play Dirty, et j'aurai un documentaire très attendu, Ozzy, No Escape From Now.
Et puis moi, je vous parlerai d'un film exceptionnel, c'est Nouvelle Vague de Linklater. À la semaine prochaine.